La parole ne pourrit jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigue littéraire de Enoch Guidjimé sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes de la web radio, Éducation dans la variété de vos responsabilités et la noblesse de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigue littéraire de ce jeudi 13 août 2026. Il est un livre qui interpelle, interroge, bouscule. Il présente des faits parfois voilés, des faits qui sont proches de nous mais qui nous échappent, que nous ne prenons pas au sérieux. Ce livre, loin d'être seulement une éloge à la folie, est un florilège poignant qui ne laisse pas indifférent le lecteur. Il amène à questionner son entourage, à mieux connaître l'homme, et dit que l'institution littéraire béninoise accueille le recueil de nouvelles au titre éponyme parce qu'on est fou de Mireille Asiba Ganebaï, comédienne et encadreuse culturelle. Totalisant 148 pages, ce livre contient 11 nouvelles parues cette année aux éditions Savanes du Continent. Dans ce livre, nous rencontrerons le penseur en présence de l'enfant roi qui, dans son dernier murmure, s'est intéressé à l'aîné. Tenez-vous tranquille. Si vous êtes habitué à cette émission, retenez que c'est un jeu de mots au travers de quelques titres de ce recueil de nouvelles. Mais avant de pénétrer le livre, place au cachet littéraire, c'est avec Nadia Bojito. Nadia, bonjour.
Bonjour Enoch.
Vous allez bien?
Je vais très bien, et vous?
Ça va. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui?
Dans la grande bibliothèque du monde, chaque ouvrage porte une mémoire, une émotion ou un fragment d'humanité. À vous, bibliophages et pèlerins des lettres, bonjour. Embarquons ensemble pour une nouvelle odyssée littéraire. La Bibliothèque nationale du Bénin met les écrivains à l'honneur à travers Paroles d'auteurs, une série de cafés littéraires qui se tiendra du 19 août au 11 septembre 2026. Pendant près d'un mois, 8 auteurs béninois iront à la rencontre du public pour partager leur parcours, leurs œuvres et leurs expériences d'écriture. Parmi eux figurent Florent Kouaouzouti, Adélaïde Fassinou, Claude Balogun, Bachabi Ayatoulaye, Maoudou Rahim, Jérôme Tossavi, Cécile Avouyankou et Serge Adjaka. Au programme, des échanges, des lectures, des découvertes d'œuvres et des moments d'échange destinés à rapprocher les auteurs de leurs lecteurs. Les rencontres auront lieu dans la salle d'animation de la Bibliothèque nationale du Bénin, les mercredis de 15h à 17h et les vendredis de 9h à 11h. Une initiative qui rappelle qu'au-delà des livres, la littérature est avant tout une rencontre entre des voix, des idées et des lecteurs. Après la rencontre avec les auteurs, place maintenant à la découverte d'une nouvelle voie de la littérature béninoise. Mamberou Komlan-Julien Assogba signe un nouveau roman intitulé « Une si douce folie » publié aux éditions SM Plume. À travers ce titre, l'auteur laisse entrevoir un récit où se croisent l'amour, les secrets, les choix de vie et les blessures humaines. Avec une si douce folie, l'auteur vient enrichir le paysage littéraire. Le rideau tombe sur cette nouvelle escale du cachet littéraire, là où les livres prennent la parole et où les auteurs rencontrent leurs lecteurs. Merci de nous avoir accompagnés et que la magie des mots vous accompagne.
Merci Nadia pour cette envolée littéraire. Aujourd'hui, nous parlerons du recueil de nouvelles « Parce qu'on est fou » de Mireille Asiba Ganebaï, comédienne et encadreuse culturelle. Mais avant, prenons le pôle de la régie.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducation.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour tutoyer quelques nouvelles du recueil « Parce qu'on est fou » de Mireille Asiba Ganebaï, écrivaine, comédienne et encadreuse culturelle. Mireille, bonjour.
Bonjour Enoch.
Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous aussi de m'avoir invité.
D'accord. Alors, Parce qu'on est fou est la première nouvelle de votre répertoire de ce recueil. La nouvelle éponyme d'ailleurs, l'incipit de cette nouvelle prend le lecteur au collet. Je cite, « Paf ! Ainsi avait retenti la gifle que j'avais donnée à ma mère ce matin. Elle avait voulu répliquer, mais j'avoue mais j'avais été prompte. J'avais saisi sa main dans son élan et l'avait tordue. Alors, c'est une surprise pour le lecteur, notamment africain, pour ne pas dire béninois.
Oui, le fait de qu'un enfant gifle sa mère.
Oui, c'est un constat qu'on fait d'habitude à l'extérieur, en Occident. C'est rare sous nos tropiques ici.
On peut dire que c'est rare.
On peut dire que c'est rare.
Mais ça se fasse.
Ah bon?
Oui. Et justement, nous avons tellement l'habitude de coller tout ce qui est mauvais à l'Occident. C'est chez les Blancs que nous voyons ceci ou cela. Pourtant, ça se passe des fois ici. Et c'est bien, vous savez, nous les écrivains, nous posons nos livres comme un miroir. Hein. Quand les gens reçoivent ça au visage, c'est violent. Et on s'arrête un instant, on se demande si ça se passe ici, ça se passe ici.
Alors justement, est-ce que ce comportement d'une mère doit amener une fille à avoir cette réaction? Je ne veux pas aller dans les détails pour l'instant. Mais dans le livre, Flavie gifle sa mère parce que cette dernière entretient des relations sexuelles avec son gendre. Allons à la page 21 pour voir ce qui se passe.
Page 21. Angèle, écœurée par la manière dont ce bouvier de Paul avait présenté la situation et choquée par le zèle de tous, s'écria.
Paul, je vois que tu as choisi de tordre le cou à la vérité. Mais si tu as pu dire à tous ici que Flavia a giflé sa mère, c'est que tu peux aussi leur dire que notre sœur fornique avec le mari de sa fille. Quelle est devenue la co-épouse de sa fille?
Angèle, après avoir lâché la bombe, écouta attentivement les murmures qui se levèrent. Elle scruta chaque visage, le mouvement des paupières, des lèvres, des narines. Elle chercha de toutes ses forces à y déceler la plus petite trace d'innocence, mais elle n'y vit que culpabilité. Ses doutes se confirmèrent. Ils le savaient tous déjà. Cette réunion n'était qu'une mascarade, une ruse de sa sœur pour laver sa conscience vis-à-vis de la famille.
Parlez maintenant. Vous savez comment traiter une fille qui a giflé sa mère. Parlons maintenant de la mère qui fornique avec son gendre. On connaît déjà les cérémonies à faire pour purifier la fille. Qu'en est-il des cérémonies de purification de la mère?
Alors, j'ai le sentiment que vous confrontez deux réalités, celle africaine et celle occidentale.
Non, pas du tout. En tout cas, moi, je n'ai pas, en écrivant le livre, ce n'était pas ça. Maintenant, il y a ce que vous posez en tant qu'écrivain et la manière dont le lecteur le perçoit. Et on ne peut pas combattre ça. Donc, si vous avez ressenti, par exemple, à la lecture de la nouvelle que j'ai confrontée de réalité, je pense que non. Il y a une réalité au-delà de tout ce qui est dit là, qui est, vous voyez, cette fille, elle a tellement crié à l'aide. On n'a pas voulu l'écouter. Si on l'avait écoutée, je pense qu'elle n'en serait pas arrivée là. À un moment donné, elle s'est défendue comme elle a pu. Et ça, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Parce que si vous voyez bien dans la nouvelle, elle voulait que la famille intervienne. Elle a appelé tante Angèle au secours et tout ça là. Mais quand tu es victime de quelque chose, tu cries à l'aide et tout le monde te dit, tais-toi, Jodonou Maou. Et puis, à la victime, on tente de museler la victime. Ça s'accumule. Après, la fille est tombée en dépression. Vous imaginez si dès le départ, quand elle avait crié à l'aide, elle avait demandé à ses oncles d'intervenir, de parler à sa maman. Si elle, même tante Angèle, à un moment donné, a coupé son téléphone. Mais la fille, à un moment donné, elle était perdue. Elle a réagi comme elle pouvait. Donc moi, je pense que noir comme blanc, si nous crions à l'aide face à une situation, qu'on refuse de nous écouter, alors que nous avons raison, alors que nous souffrons, on peut avoir cette réaction indépendamment de la couleur de peau.
Mais tante Angèle a quand même essayé de se rendre disponible.
Oui, mais elle a tenté de se rendre disponible. Mais au dernier moment, au moment crucial, quand elle a échoué à la réunion, elle n'a même pas cherché à trouver une autre alternative, à lui donner de l'espoir en lui disant « La réunion ne s'est pas tenue, je te promets dans une semaine ou pas. » Elle a coupé son téléphone carrément. Vous savez ce que c'est une personne en dépression, une personne qui se sent incomprise et la seule personne avec laquelle elle discute coupe son téléphone et ça sonne hors zone.
Voulez-vous nous dire que nous devons faire beaucoup attention à nos familles, c'est ça? Parce que l'histoire se passe entre famille. Flavie, à l'extérieur, avait fait une fausse couche. Elle a invité sa mère à la rescousse, rester là, aux petits soins et tout. La mère débarque en France. Le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est de commencer à entretenir des relations sexuelles avec le mari de Flavie. Flavie étant dépassée, paf, elle gifle sa mère. L'histoire échoue à la maison, en famille. On tente par tous les moyens pour étouffer l'histoire là. Voulez-vous nous montrer qu'on doit faire beaucoup attention à notre famille?
Non, pas à la famille.
À qui alors?
À l'humain, tout simplement. Parce que vous voyez, ce que la maman de Flavie a fait, une amie peut le faire, une sœur peut le faire, vous voyez. Donc, si nous prenons dans un premier degré, on dira la famille. Mais quand vous vous élevez au second, au troisième degré, à l'humain, parce que qui sont ceux qui composent la famille? Des hommes, comme vous et moi.
Mais là, vous avez mis l'accent sur la famille.
Oui.
Pourquoi ce choix-là? Est-ce que vous êtes harcelé par votre famille par hasard?
Non, non. Au contraire, je me sens écoutée. Donc, du coup, je me demande, mon Dieu, ce que la personne écoute, comment ils font.
Et puis, on prend la Bible comme un prétexte pour couvrir le mal.
Oui.
Est-ce que cela vaut le coup? La Bible a demandé ça. On est parti même convoquer l'un des 10 commandements. Honore ton père et ta mère et tes jours seront comptés.
Oui.
Pour calmer Flavie, qui pourtant était en train de réclamer quelque chose.
Même pas pour la calmer, pour lui intimer l'ordre de se taire, d'accepter l'inacceptable. Ce n'est pas normal.
Et puis vous avez invité l'agent. L'agent a pesé dans la balance pour influencer la manifestation de la vérité.
Oui, oui. Et l'argent, encore et toujours l'argent. Je sens qu'on en parlera encore. On n'en finira jamais d'en parler, oui. Parce que l'argent vient. Mais avant que l'argent ne fasse son travail, il y a la moralité qui a déjà foutu le camp pour que l'argent puisse prendre toute la place. Vous voyez, l'oncle, Paul.
Bien sûr.
Mais Paul, il paraît que depuis la naissance, Paul était déjà une racaille. Il y a quelque part dans la nouvelle où sa sœur le disait, qu'il est né avec une tête patibulaire.
Bien sûr.
Donc lui, il était déjà comme ça. Donc l'argent est venu aplanir les choses seulement, vous voyez.
Alors, pourquoi vous avez suscité le décès de Flavie? Il a répondu à l'appel de la défenestration. Elle s'est jetée par la fenêtre grâce à son compagnon, sa campagne de fortune. Je parle de la fenêtre. La fenêtre, à un moment donné, a joué un rôle plus ou moins important dans la vie de Flavie. Pourquoi accorder vraiment? Est-ce que quand on n'a plus vraiment de solution aux côtés des humains, on s'offre à un objet ou à un animal, c'est ça?
Oui, on va dire tout simplement qu'on fait comme on peut. Comme ça aurait pu être une valise, ça aurait pu être ses vêtements, vous voyez. Mais dans ce cas-là, c'était la fenêtre. À des objets, à des animaux, comme vous l'avez dit. On se défend comme on peut, tout simplement parce qu'il n'y a personne parmi les humains pour nous écouter et nous comprendre.
Alors, l'achat de conscience, la convocation du verset biblique, l'injustice voilée, le bafouement de l'autorité parentale, l'inceste. Finalement, c'est quel genre de folie dans cette nouvelle-là? Parce qu'on est fou.
Le silence coupable. La folie du silence coupable. C'est-à-dire que quand on voit le mal, mais qu'on décide de se taire, on décide de parler de tout, sauf de ce mal-là. Donc cette folie-là, comment on va l'appeler?
Je ne sais pas. Parce qu'on est fou, c'est ce que vous avez dit.
La mauvaise folie. C'est la mauvaise folie.
Alors, au fils bien-aimé, elle a deuxième nouvelle de ce recueil. Valdano, le fils bien-aimé, s'est abonné au manguier du village où il passe le clair de son temps. Un désœuvré, justement, permettez-moi de faire un détour à la régie pour suivre cet extrait de la page 37. C'est bien sûr la réaction de maman Valdano.
Page 37. Au bout d'un moment, éreintée par cette course qui n'était plus de son âge, elle s'arrêta. Plus lentement, s'assit sous le manguier et éclata en sanglots. Plus calmement, elle parla à son fils en lui montrant son acte de naissance.
Valdano, regarde bien ton acte de naissance. Ton prénom est Valdano. Où as-tu lu manguier? Nulle part. Et pourtant, à cause de toi, fils indigne, je suis devenue maman Valdano du manguier. Je suis devenue la risée du quartier par ta faute. Par ta faute, je suis montrée du doigt. Celle dont le fils passe la journée à dormir sous le manguier. Valdano, aie pitié de moi. Et va chercher un job. Fais comme certains jeunes de ce quartier. Si tu ne veux rien faire, au moins deviens docker au port. Valdano, je souffre par ta faute.
Ok, maman, mais laisse-moi un peu de temps.
Quel temps encore, Valdano? Ça fait 10 ans que tu me demandes du temps pour aller chercher un job. Aujourd'hui, tu as 35 ans et tu n'as jamais rien fait de tes 10 doigts, à part dormir et manger. Si moi, je n'avais pas mon commerce de légumes, de quoi vivrais-tu? De quoi vivrions-nous?
Alors, sauf erreur de ma part, c'est la comparaison. Maman Valdano, étant assise au dehors, a constaté que le fils de sa voisine est venu offrir des présents à sa voisine, ce qui a été une sorte de déclic. Alors, est-ce que la comparaison vraiment, à un moment donné, vaut le coup?
Je pense que oui. Quand on a trop supporté, quand on a trop subi, vous voyez, maman Valdano, vous voyez le nombre d'années qu'elle a attendu, espérer que le déclic se passe dans la vie de son fils, et ce n'est jamais venu. Et si vous suivez le parcours de cette dame, elle n'a pas pour habitude de faire une comparaison. Mais là, elle en avait assez.
Mais là, après, elle a fait une comparaison, justement. Elle est restée, mais je dis même qu'elle est l'incarnation de la comparaison, parce que le jeune garçon qui ne revenait plus de l'école et qui a été découvert sans vie, où ils l'ont décapité. Elle a fait une comparaison pour revenir à la case de départ, revenir voir son fils Valdano sous le manguier pour lui dire, mais écoute, je préfère avoir un enfant vivant, paresseux, que d'avoir un enfant, enfin, que de ne pas l'avoir. Cela a suscité beaucoup de choses. On sent que la comparaison revient tout le temps. Hein. Enfin, justement, au niveau de cette nouvelle, on sent une sorte de comparaison qui est dans cette nouvelle-là. Pourquoi?
Parce que, justement, elle est mal dans sa peau, cette dame. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir un enfant incapable. Incapable pas parce que il est diminué physiquement ou pas, mais non. Il est paresseux. Donc, du coup, je pense que c'est la situation dans laquelle ce personnage se trouvait qui a fait que la comparaison s'est invitée.
Donc, il faut comparer tout le temps. Il faut se comparer à l'autre. C'est ça. Mireille va se comparer à une camarade de classe avec qui elle a connu une année scolaire plus ou moins reluisante. Et aujourd'hui, l'ami est peut-être dans une grande maison bien logée et tout. Et donc, vous allez vous comparer à cette personne-là.
Quand la dépression est là. En fait, c'est ce que je voulais dire en disant quand on est à bout. En fait, maman Valdano, vous voyez, c'était une sorte de dépression. Quand vous arrivez là, vous avez une baisse d'estime de soi. Et là, ce que vous n'aviez pas l'habitude, les gens vont vous méconnaître. À la limite, on se dit, mais cette dame ne faisait pas ça avant. C'est parce que cette dame ne va plus bien. Vous voyez un peu. Donc, je pense que ce n'est pas bien de comparer sa vie à celle des autres. Mais quand on est en difficulté et que personne ne nous aide, finalement, quand on rentre en dépression, il n'y a plus de limite en fait. La personne qui ne comparait pas sa vie commence à comparer sa vie à celle des autres. Et ça, c'est la dépression qui fait ça.
Mais vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faut faire aussi des comparaisons pour susciter la saine émulation?
Oui, mais pas ce type de comparaison.
Alors, que pensez-vous de ceux-là qui comparent leur passé à leur présent, qui préfèrent comparer leur passé, Myriel d'hier et Myriel d'aujourd'hui, qui préfèrent faire cette comparaison-là? Que pensez-vous de ceux-là?
Tout dépend du but dans lequel cette comparaison est faite. Si c'est pour rendre grâce, si c'est pour dire malgré tout, je suis là, d'accord. Mais si c'est pour, par exemple, vouloir du mal à l'autre qui a évolué plus que toi après avoir fini cette comparaison. Par exemple, quand vous posez la comparaison, il y a 10 ans, j'avais un vélo. Aujourd'hui, je n'ai même plus ce vélo-là, je marche. Il y a 10 ans, ma sœur n'avait rien. Aujourd'hui, elle a une voiture. Je vais attenter à sa vie, par exemple. Cette comparaison-là, elle est très mauvaise. Vous voyez? Donc, tout ça dépend.
Alors, est-ce que comparaison fait appel à la concurrence?
Non.
Alors, dans cette nouvelle-là, on a constaté que la dépression est revenue, vous l'avez dit tout à l'heure. Et pourquoi vouloir insister tout le temps sur la dépression? Est-ce que vous en avez été victime une fois? C'est une question très sensible.
Non, mais par contre, du silence coupable, oui. En fait, si vous voyez, tout ce que je dis, c'est le silence coupable, tout ce que ça peut amener. En fait, je pose la dépression, mais au-delà de la dépression, vous voyez les situations qui ont amené à cette dépression-là.
Et quels sont les signes avant-coureurs de la dépression, selon vous?
Ah, il y en a plusieurs. Vous voyez, chez maman Valdano, c'est la comparaison qui a commencé. C'est la comparaison qui a commencé. Alors que c'était une maman qui pratiquement couvait son enfant. Hein. Vous voyez, c'est la comparaison. Chez Flavie, c'est la conversation avec la fenêtre. Donc, la dépression a plusieurs signes, mais ça varie d'un individu à un autre.
Auditeurs et auditrices de la web radio, éducation, amoureux des belles lettres, nous allons marquer une courte pause pour écouter le dadien national, Jonas Pedro, décédé le 12 août 2004 à Cotonou.
We'll be right back.
Hier, cela fait exactement 22 ans que ce célèbre artiste béninois a tourné le coin. Retour en studio pour aborder d'autres nouvelles du recueil « Parce qu'on est fou » de Mireille Asiba Galebaï, écrivaine, comédienne et encadreuse culturelle. Le penseur, troisième nouvelle de cette série, peint une réalité. L'honnêteté financière dans un monde où la recherche des espèces sonnantes et trébuchantes est la norme. Le penseur dont il est question découvre un sac rempli de 14 millions. Chose bizarre, il est enseignant et a vraiment besoin d'argent. Ses parents, n'en parlons pas. Pourtant, il a décidé de rendre l'argent au propriétaire. Je vais lire un extrait de la page 55 pour donner une précision sur ce contenu. Cet argent ne lui appartenait pas, mais plutôt à son patron. Elle risqua la prison. Elle le bénit abondamment. Elle fut remerciée par le commissaire qui demanda à prendre une photo de lui et avec lui. Pour lui, il fallait que cette histoire se sache pour inciter tout le monde à l'honnêteté. Quand on lui remit l'enveloppe et la récompense promise, il refusa. Car pour lui, faire ce qui est juste est un devoir et point besoin de récompense pour cela. L'une des valeurs qu'en sa qualité d'enseignant, il transmettait à ses apprenants est qu'il avait failli perdre face à un sac d'argent. La photo prise fut mise sur les réseaux sociaux par la cellule de communication de la police républicaine avec pour titre « Hommage à l'homme qui a ramassé et rendu 14 millions de francs CFA ». La télé en avait parlé, la radio aussi. Alors on constate hein, que vous résumez, est-ce que la vie d'un homme doit se résumer à l'argent? L'argent semble être un fil rouge dans votre livre, dans les premières nouvelles que j'ai lues, que nous avons partagées avec les auditeurs. Est-ce que la vie de l'homme doit se résumer à l'argent?
Non, la vie de l'homme ne doit pas se résumer à l'argent. Et c'est justement pour ça que ces histoires sont là. Je ne sais pas qui pourra me convaincre du contraire. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la moralité de chacun. Donc, l'argent est là, mais l'argent est là toujours au cœur d'une situation où les individus ont déjà jeté la morale par la fenêtre.
Vous parlez de l'éducation, là? Vous parlez de l'éducation, là?
Quelle éducation?
L'éducation. La morale fait appel à l'éducation ou je me trompe?
À l'éducation et à aussi quelque chose d'inné.
À quoi, justement?
On est avec. Vous verrez des gens plus honnêtes que d'autres, déjà dès la base. Et après, l'éducation vient faire le reste.
Et si donc vous rejoignez peut-être Jonas Pedro qui dit quand vous naissez, il faut vous remettre en cause.
Oui.
Parce que le père du penseur, ayant appris que son enfant a retourné les 14 millions, est tombé malade, très fou.
Oui.
Il a commencé à rejeter son enfant, que ce n'est pas l'éducation qu'il lui a donnée. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Ça veut dire ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a ce quelque chose d'inné. Si tu es né malhonnête, je ne sais pas quelle éducation va te... Ça va amoindrir les choses. C'est pour cela que je ne suis pas du tout d'accord avec celui qui dit que l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. C'est Descartes ou bien
Non. C'est le philosophe, celui qui existe. C'est dans du contrat social, je crois bien.
C'est Rousseau?
Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau.
Oui.
Voilà, je suis
d'accord. Vous êtes contre Rousseau?
Oui, je suis contre. C'est déjà là, vous voyez. Et ça, donc c'est ça que je décris. L'argent vient toujours tomber sur ce que nous avons.
En amont, c'est ça?
Oui, en amont. Et c'est ce que je dis dans ce livre.
Alors, quelle est l'idée derrière cette nouvelle, alors?
L'idée derrière cette nouvelle, c'est de dire, la philosophie de l'ouvrage, c'est de dire...
Non, pas l'ouvrage, la nouvelle, justement.
À cette nouvelle, le penseur.
Bien sûr.
De dire combien de fois nous méprisons aujourd'hui l'honnêteté. Nous méprisons les valeurs. Donc, voilà. Ce monsieur qui a décidé de rendre les 14 millions, il a tellement été injurié, il a tellement été acculé qu'il en a fait une dépression.
Dépression. Et vous revenez là-dessus tout le temps.
Oui, et on trouve qu'il est bête, en fait, d'avoir rendu ça et les sous.
Alors, le comportement du père du penseur, ce n'est pas une manière pour vous d'amener le lecteur à ne pas rendre l'argent qu'il trouve, parce que ça me rappelle quelque chose. Moi, j'ai accompagné un oncle politicien lors des campagnes, des récentes campagnes et pour les élections et tout. J'ai gardé des sous dans ma main que je n'ai pas touché. Je ne fais que lui retourner, je le fais le point avec des écrits à l'appui. Est-ce que voulez-vous m'amener à ne plus prochainement faire les points comme cela se doit, en m'inspirant du comportement du père du penseur?
Pas du tout. Je vous dis par là d'être ferme et d'être plus fort que le penseur. En fait, c'est ça. Sachez d'être désormais... Fort. Oui.
Pour avoir la dépression après.
Justement, non. Puisque vous savez déjà, grâce à Mireille Gandebani, que les gens peuvent vous amener, même quand vous faites quelque chose de bien, à douter de cet acte et à faire une dépression. Pourquoi pas? Vous savez déjà. Donc, le jour où vous ferez quelque chose de bien, d'honnête, et que de toute part, on vous dira, tu es bête, tu aurais dû penser au penseur. Dites, je ne veux pas finir comme le penseur. Et soyez plus ferme dans votre décision, convaincu que vous avez fait le bon choix.
Et puis, je n'ai pas envie de finir défini comme l'enfant roi, la nouvelle qui a suivi, vous présentez une éducation à deux volets. Pendant que le père dit non au sujet de l'enfant, la mère dit oui. Les conséquences sont là. L'enfant roi est issu d'une famille bourgeoise. Il n'a de respect que pour ses parents. À l'école, il se voit au-dessus de tout le monde. À la maison, la domestique, une jeune dame, essuyait des claques portées par les soins de l'enfant roi. Pendant que le père, un homme d'affaires, n'est pas d'avis, la mère, un ministre d'État, trouve que c'est normal. Alors, selon vous, qui peut avoir la voix au chapitre en termes d'éducation d'un enfant?
Vous avez vu, non? Comme les voix sont discordantes, vous avez vu le résultat, les deux parents. Les deux, le père et la mère. Vous avez vu les conséquences, non? Quand le père dit non, la maman dit oui. Donc le oui doit venir des deux côtés, le non doit venir des deux côtés.
Alors, est-ce que votre entourage regorge des personnes qui peuvent vendre leur conscience au nom de l'argent? Est-ce que vous êtes entouré des personnes qui aiment l'argent?
Oui, mais qu'entendez-vous par mon entourage?
Oui, mais on dit souvent que l'écrivain ou l'écrivaine s'inspire de son milieu pour produire, observe.
Oui.
Pour produire. Votre observation vous a amené à écrire des nouvelles à forte inclinaison pécuniaire, des nouvelles qui mettent en avant la cupidité de l'homme, qui mettent en avant...
La décadence morale, surtout. La décadence morale, surtout.
Donc, c'est ça.
Qui a permis à l'argent de nous gouverner. C'est cette décadence morale qui a permis à l'argent de nous gouverner.
Mais pourquoi il n'y a pas un autre aspect qui permet de gouverner l'homme et que c'est l'argent? Il y a d'autres aspects qui doivent exister. L'influence, l'influence d'une manière ou d'une autre. Mais là, on sent que vous revenez tout le temps sur l'argent. L'argent vient intervenir à tout moment. L'argent vient étouffer la vérité. L'argent vient semer la dépression, etc. Est-ce que votre entourage regorge des personnes des personnes vénales?
D'abord, moi, mon entourage immédiat, c'est ça?
Bien sûr.
Sinon, moi, mon entourage, c'est l'univers. J'observe tout le monde, je m'inspire de tout le monde. Donc, je ne me circonscris pas seulement dans mon entourage immédiat.
Quand on prend le cas de l'aîné, par exemple, qui malheureusement est obligé d'avoir des relations sexuelles avec le mari de sa mère pour que cette dernière ne quitte pas le foyer. On achète la voix de la domestique. Et in fine, c'est comme un empoisonnement à la fin. Parce qu'on lui a remis une enveloppe, n'est-ce pas?
Oui.
L'argent, on a donné de l'argent à la domestique pendant longtemps. Parce qu'on a compris qu'elle a envie de claquer la porte. On lui remet une enveloppe empoisonnée. Parce qu'on sait que l'argent pourrait s'y trouver. Vous voyez combien vous insistez sur l'argent là?
C'est pas sur l'argent que j'insiste. Si seulement l'argent pouvait tout acheter comme ça, il n'aurait pas... Au début, la domestique était-elle au courant?
Non. Pas du tout.
Pas du tout. Parce que, justement, ils ne savent pas si elle serait honnête en refusant l'argent et en dévoilant la vérité. Ou si elle prendrait l'argent et tairait la vérité. Vous comprenez? Tout est question de moralité, je reviens encore. Donc, du coup, puisque eux, ils ne savaient pas la décision que prendrait cette dame, ils n'ont pas pris le risque de lui dévoiler la vérité jusqu'à ce qu'elle le découvre. L'argent est là. Mais pas sans nous, quoi.
Et vous mettez la censure, la morale de l'homme.
Oui.
On est en train de finir. Qu'est-ce que vous avez à dire? Votre culture est influencée par quel auteur béninois? Auteur au pluriel.
Jean Plia.
De regretter mémoire.
Oui. Et son fils, José Plia.
De regretter mémoire.
Oui, oui, beaucoup.
Merci. Merci à vous. Ce recueil de nouvelles nous rappelle une chose simple. Quand l'argent commande, la vérité se tait. Quand on n'a rien à faire, on laisse faire. Quand on ne respecte plus les parents, on perd le nord. Et plus grave encore, quand on met un prix sur sa conscience. Puisse cette lecture nous rendre plus vigilants, plus exigeants envers nous-mêmes. Le déserteur, dernier murmure, la résurrection du père sont autant de nouvelles que nous n'avons pas abordées dans votre émission. Mais ce que l'on retient, il y a la folie à lire dans ce livre. Avant de mettre un thème à l'émission, il me plaît de partager cette citation de l'écrivain français Jean Guénot, je cite « La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais pour se trouver. » Fin de citation. Quant à moi, je dirais à mon tour, le livre « Un débat avec Eba entre le lecteur et l'auteur ». Gildas Béanzien Awagbe, Ferdinand Zamba, Jean-Marie Arrotondi, Franklin Guignon, Nadia Podito, Amélie Mocho, Cindy Wemakou et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Ferdinand Zamba a assuré la manipulation technique. La coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arrotondi. Au micro, je suis Enoch Guédimé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission « La virgule littéraire », comme on le dit en fond et d'abord.
La virgule littéraire.
La virgule littéraire. La virgule littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La virgule littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc Action.